Las crónicas de literatura paisana a mi Mahmoud Alaya. Aquesta sera anem a parlar un poc de política agrícola i de les conseqüències pels paisans a mi qualcun que ha viscut aquelles qüestions i aquelles problemes de PREP. S'agís de Jean Mouchel. Alors, qual és Jean Mouchel, Mahmoud?
Adicias. Bonsoir à tous. Donc, effectivement, Jean Mouchel, c'est un paysan normand. Il est né à Briquebosque, dans le Cotentin, là-bas, en haut, dans le département de la Manche. Depuis des générations, ses ancêtres étaient paysans, et lui aussi, ben, il l'est devenu à 14 ans, sur l'exploitation familiale. Très tôt, c'est la rencontre avec la JAC, hein, c'est la Jeunesse Agricole Chrétienne, et les responsabilités prises le font rencontrer de nombreux jeunes qui constituent une sorte de pépinière de responsables agricoles. Et à 30 ans, il va s'installer dans le Calvados sur une exploitation un peu plus grande que celle de sa famille, de 60 hectares. Il est convaincu de l'intérêt de l'agriculture de groupe. Alors, il s'associe avec son frère et constitue ce qu'on appelle un GAEC, un groupement agricole d'exploitation en commun. À l'époque, c'était une nouvelle formule, hein, d'association. Et cette formule, justement, va lui permettre de se libérer plus facilement des tâches quotidiennes de l'exploitation pour prendre des responsabilités extérieures. Il devient président du Centre des jeunes agriculteurs du Calvados, puis administrateur et vice-président du Centre national des jeunes agriculteurs. Il a fait partie de l'équipe de Michel de Baptiste, très connu, considéré comme l'un des promoteurs de la modernisation de l'agriculture française dans les années 60 et 70. Et il va emprunter un peu le même parcours au syndicat de la Fédération nationale des exploitants agricoles, et plus tard dans les chambres d'agriculture, où il exerce aussi des responsabilités, ainsi que dans la coopération agricole. En 1976, il est élu président du comité économique et social de Basse-Normandie. Et puis plus tard, il devient premier vice-président du conseil régional de Basse-Normandie. Et à Paris, il a aussi des responsabilités. Il siège au conseil économique et social et dans diverses institutions au titre de ses responsabilités professionnelles. Comme représentant donc du milieu agricole. Il est devenu conseiller agricole de Jacques Chirac et puis après il a été élu au Parlement européen. Alors Jean Mouchel est membre de l'association des écrivains et artistes paysans, dont je rappelle l'adresse du site internet pour les auditeurs et auditrices qui veulent en savoir plus. C'est www.écrivain avec S au pluriel, -paysan avec S.com. Voilà, donc ça, c'est le site sur lequel on trouve pas mal d'informations sur les écrivains et artistes paysans, dont fait partie Jean Mouchel, avec qui nous allons nous entretenir ce soir.
Som soque som, que som paisans d'un peu janei du temps, quand nous a tous escrops sous camis de la terre, au cauen sembla l'oubrat, et mei plantat la vigno, cauen cantat l'amour et la vertat. Som soque som, que son chen travail, las camos et los bras mot, de nos tessisous, digun anabolut, de pancado jour, a connais pas sigu, n'ya quel brumet de mai, per ben et l'oubuguet. Soum soque soum, Kesum emnos tabe, kawentus tem gahat, la heru du bundiu, e douz homes benans, nia ke luz roles douz bieis, perauge lu pardu, en de la mai, en de la cousinero. Sum so kesum, sum so kesum, sum so kesum, sum so kesum. Que soy troubadou, servi pas en arre, cantin cum un cigau, ca pergut un estiu. Et dans mon praweko, la moutorno tout dur, en de dise que taimi, a la mi tort que passo. Sum so que sum, 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 sum so que sum.
Sum so que sum, sum so que sum, parole, parole et musique de Claudie Motte-Gotteron, c'est toujours à l'écoute de TTTEO, de la chronique de littérature paysanne. Et donc, Nere n'a parlé de Jean-Michel. Alors, l'as entrevistata que l'homme.
Alors, j'ai rencontré justement, j'avais la chance de le rencontrer au Salon de l'agriculture récemment à Paris, Jean-Michel, et j'ai profité de l'occasion pour lui demander un peu ses impressions sur l'évolution de la politique agricole aujourd'hui. Voilà.
Ben, l'écoutant.
On va l'écouter, bien
allez.
Sûr.
C'est un problème, vas-y. Ben.
Est-ce que Jean, tu pourrais nous dire, avec du recul un peu, ton avis sur les problèmes agricoles d'aujourd'hui et un peu, qu'est-ce que tu penses de l'évolution actuelle qu'on voit justement sur l'équilibre mondial et ces problèmes de, disons, de prix agricoles, de perspectives pour les paysans, etc.
Je voudrais peut-être rappeler au départ la situation qui était celle de l'agriculture française après la guerre. Nous étions en état de sous-production par rapport aux besoins de la consommation et on accusait les paysans de ne pas produire assez. Nous avons cherché les moyens pour développer cette production-là avec des paysans qui n'avaient pas reçu de formation. Chez moi, 15% des agriculteurs avaient leur certificat d'études. Nous avons malgré tout réussi avec des réunions régulièrement, le soir, à faire évoluer et apporter des méthodes techniques modernes aux agriculteurs pour développer la production. Mais la modernisation de l'agriculture apparaissait avec du matériel moderne, que nous n'avions pas l'habitude d'utiliser autant nous travaillons avec les chevaux, et nous avons donc développé cette production. Mais avec la mécanisation, cela a entraîné des besoins en main-d'œuvre largement diminués. Il a donc fallu mettre en place un système politique qui permette de faire diminuer le nombre des paysans sans heurts, en les envoyant en retraite, alors qu'avant ils ne l'avaient pas, en leur donnant les moyens de formation pour se reconvertir ailleurs, et aussi en apportant une formation technique, économique, des habitudes de gestion à ceux qui restaient. À ce moment-là, la production s'est développée, parfois très vite, ce qui encombrait quelquefois le marché. Il a fallu, avec l'accord du gouvernement français de l'époque, mettre en place des moyens pour soutenir les prix agricoles en cas d'effondrement des prix. Mais pour nous, jeunes syndicalistes de l'époque, nous estimions que les prix étaient une chose importante, mais insuffisante. Il fallait créer les conditions pour avoir de bonnes structures d'exploitation agricole suffisamment importantes pour pouvoir utiliser les moyens techniques modernes. Et pour cela, nous avons développé l'agriculture de groupe qui permettait d'utiliser des gros moyens qu'un agriculteur individuel n'avait pas la possibilité d'utiliser.
L'agriculture de groupe venait en soutien un peu à l'agriculture familiale. C'était pour maintenir un peu plus d'exploitation familiale, les rendre plus viables.
Voilà, ça permettait à des agriculteurs qui individuellement n'auraient pas pu bénéficier des progrès techniques de pouvoir en bénéficier en groupe. Quand on achète une moissonneuse-batteuse, il faut une surface suffisante pour pouvoir l'amortir. Et seuls les gens ne pouvaient pas, donc en travaillant en groupe, ça a permis de maintenir un plus grand nombre d'agriculteurs et de maintenir des gens qui étaient des responsables dans leur travail. La responsabilité dans le travail, nous avons toujours considéré que c'était un facteur épanouissement de l'individu, de l'être humain. Alors, depuis, les choses ont progressé, si on peut dire. la production s'est développée, puis l'Europe s'est mise en place, le marché commun agricole, mais le marché commun agricole faisait se retrouver des pays qui avaient des habitudes très différentes, des mentalités différentes, et il a fallu mettre en place une politique agricole qui s'est beaucoup inspirée de celle que nous avions en France, et nous avions une politique de soutien des marchés qui permettait d'équilibrer la production par rapport aux besoins de la consommation. Ça, c'était quelque chose que nous considérions comme très important. Malheureusement, ça a conduit parfois à des surproductions dans certains domaines et il a fallu régler ces problèmes. Ça n'a pas toujours été facile.
Cette politique agricole avait aussi un aspect fondamental qui a été critiqué, c'est la protection. C'était une politique qui protégeait les pays européens et évidemment les Américains, les autres pays n'ont pas voulu de ça. Ils ont voulu casser un peu ce protectionnisme européen.
Oui, mais le but de cette organisation n'était pas qu'au profit des agriculteurs. Les objectifs, c'était de maintenir un revenu minimum aux agriculteurs, mais c'était aussi d'apporter aux consommateurs français d'abord et européens ensuite un niveau d'approvisionnement suffisant en qualité et en prix tout à fait acceptable. Voilà quels étaient les objectifs au départ. Mais l'Europe s'est élargie et puis nous avons eu l'influence des Britanniques, des pays du Nord, la pression des Américains et puis aussi même de chez nous des gens à l'esprit libéral plus développé qui voulaient s'orienter beaucoup plus vers une économie de libre-échange avec beaucoup moins de soutien des marchés et il fallait aussi limiter la production. Alors, il a été décidé en 1993 que les prix agricoles s'aligneraient sur les prix mondiaux. Ce qui fait que le prix du blé, par exemple, a chuté de plus de 50%. Mais cette perte de revenus était censée être compensée par des subventions à l'hectare pour compenser la perte de revenus. Il est arrivé bien souvent que le prix des céréales ne permettait pas aux paysans de vivre et que l'aide qui lui était accordée couvrait une partie du déficit et en supplément lui apportait un revenu. Cela a été très critiqué par les consommateurs, par les contribuables qui disaient « mais voilà qu'on va subventionner les paysans maintenant ». De toute façon, il faut bien que l'alimentation se paye. Elle est payée ou par le consommateur ou par le contribuable. Alors, quand elle est payée par le contribuable, eh bien le contribuable il se révolte un petit peu contre ce système. Alors, sous les pressions diverses, en 1993, il y a eu donc cette réforme qui a causé beaucoup de dégâts en agriculture, ne serait-ce que du point de vue de leur mentalité. Parce qu'à partir du moment où le revenu est constitué plus par des primes que par les prix de production, eh bien, on a tendance, au moins pour certains, à avoir une mentalité chasseur de primes, ce qui n'est plus tout à fait la mission d'un chef d'entreprise. Tout ça s'est amplifié avec les accords mondiaux. On veut créer un marché des produits agricoles qui soit tout à fait libéral, mais ça conduit à des catastrophes.
Ça c'est, disons, la dernière phase, la phase mondialisation, libéralisation à tout craint, et qui a conduit à ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire une fluctuation très importante des prix et des revenus, parce que selon qu'il y ait une sécheresse ou s'il y a selon qu'il y ait une catastrophe, etc., et puis ça conduit à favoriser les gros pays, enfin les pays gros producteurs à bas coût, si l'on veut. Donc ça, pour l'agriculture, c'est une affaire qui ne peut pas tenir la route longtemps. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, eh bien, je approuve tout à fait ce que vous dites. J'ajoute aussi que la demande solvable est de plus en plus importante, parce qu'il y a des pays qui se développent et qui ont les moyens d'acheter. Ça peut raréfier la production et faire augmenter les prix. On en voyait l'exemple tout à l'heure avec le prix des céréales, qui a atteint des sommets, cette politique a de gros inconvénients, de très gros inconvénients, parce qu'elle peut éliminer beaucoup de producteurs chez nous, mais elle peut aussi tout simplement condamner l'agriculture dans les pays les plus pauvres. Quand le revenu d'un paysan en Afrique ou dans certains pays sous-développés est très faible, la libéralisation du marché fait faire que le prix de sa petite production s'effondre, et à ce moment-là, il n'a plus qu'à aller grossir les bidonvilles autour des grandes villes, on perd des surfaces agricoles et on perd en même temps des producteurs qui deviennent des chômeurs.
Bon, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant ? Bon, vous avez du recul, vous n'êtes plus dans le syndicat, mais vous avez quand même un point de vue. Est-ce que vous pouvez donner, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour remonter la pente et éviter de sombrer de, justement dans les effets négatifs d'un libéralisme à tout craint ?
Je crois qu'on ne peut pas revenir tout à fait en arrière avec les soutiens des prix tels qu'on l'a connu autrefois en France et en Europe. Mais la libéralisation intégrale, il faut en revenir de ça. Je ne sais pas si ça se fera. Je l'espère beaucoup. Je ne suis plus responsable agricole maintenant, mais comme vous dites, j'ai toujours mon opinion. Je pense qu'il faut organiser une politique agricole avec un minimum de production par grande zone, par grand pays. L'Afrique ne peut pas vivre avec le même système d'organisation de marché que chez nous. Il faut donc protéger les frontières africaines pour éviter cet effondrement des prix et permettre un développement de la production agricole et alimentaire qui est un besoin impérieux pour les populations de ces pays qui sont par ailleurs en augmentation importante parce qu'avec des taux de natalité qui sont élevés, ces régions sont menacées de famine parce que si elles ne produisent pas, s'ils n'ont plus les moyens d'importer, eh bien, ça, on va créer des situations très compliquées. On a déjà connu des révoltes il y a quelques années, ça risque de s'amplifier et devenir carrément dramatique si on n'y porte pas remède. Maintenant, en Europe, nous avons aussi besoin d'organiser quelque chose, peut-être par le développement d'une politique contractuelle qui permette aux paysans de ne pas être celui qui récupère le reste au bout de la chaîne, quand chacun a pris sa part de bénéfices, que le contribuable a trouvé sa part, que le consommateur est satisfait et que les supermarchés se sont enrichis. Alors, il faut trouver un système.
Oui, alors... Une fois à la retraite, Jean Mouchel, il a voulu témoigner sur la vie des paysans, justement, qu'il a connue. En tant qu'écrivain, il a écrit plusieurs romans. Et nous reviendrons dans une prochaine émission sur ses écrits.
C'est dans 10 ans, je m'en irai, j'entends le loup et le renard chanter.
C'est dans 10 ans, je m'en irai, j'entends le loup et le renard chanter.
J'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter.
J'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter.
C'est dans 9 ans, je m'en irai, la jument de Michaud a passé dans le pré. La jument de Michaud et son petit poulain a passé dans le pré et mangé tout le foin.
La jument de Michaud et son petit poulain a passé dans le pré et mangé tout le foin.
L'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra, la jument de Michaud, elle s'en rebondira.
L'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra, la jument de Michaud, elle s'en repentira.
C'est dans 3 ans, je m'en irai. La jument de Michaud a passé dans le bré. La jument de Michaud. passer dans le pré et manger tout le foin.
La jument de Michaud et son petit poulain, à passer dans le pré et manger tout le foin.
L'hiver viendra, la jument de Michaud, elle s'en revendira.
L'hiver viendra, la jument de Michaud, elle s'en repentira.
C'est dans 2 ans, je m'en irai, j'entends le loup et le renard chanter.
C'est dans 2 ans, je m'en irai, j'entends le loup et le renard chanter.
Triane, la cabale de Michaud, la jument de Michaud que nous cantava co. Aquí eran las crónicas de literatura paisana, mi mamá de la ya.